Bien, merci d'être venus si nombreux. Comme vous pouvez le constater en regardant simplement le titre de ce que je vais vous présenter, il ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le programme, même s'il y aura bien des choses qui s'y rapporteront. Tout simplement parce que, en préparant cet exposé, j'ai ressorti les sujets en particulier du CAPES. Et initialement, je m'étais aperçu, c'était l'idée de départ, qu'on vous avait demandé à un moment donné, qu'un des sujets proposés était en particulier une comparaison entre la chaîne alpine et la chaîne hercynienne ou varisque. Et donc je m'étais dit, il faut absolument qu'on discute un peu de ce point de la diversité des chaînes, comment elles se forment, pourquoi il y a différents types de chaînes. Et puis j'ai vu aussi que dans ces sujets, il y avait souvent des aspects historiques, et qu'en particulier sur les Alpes, il y avait une référence appuyée qui avait été faite à Émile Argan. Et après tout, j'ai choisi de partir de ce point, de partir d'Émile Argan et de vous proposer une petite réflexion sur comment il concevait les Alpes et comment on les conçoit aujourd'hui, sur un point bien sûr central qui est la manière dont on construit les chaînes de montagne. Alors ça, c'est quelques constats, mais que vous connaissez tous. Votre enseignement, il assure une très large diffusion de la tectonique des plaques, de tous les concepts fondamentaux de la tectonique des plaques. Mais il y a toujours un petit problème qui est le fait que quand on enseigne les choses à une échelle très globale et qu'on se réfère quotidiennement à des choses locales, alors je pense le climat, ça peut être voilà, l'évolution du climat à long terme et le rapport avec le temps qu'il fait aujourd'hui est assez obscur. De la même manière que les roches et les paysages sont des choses de notre quotidien, mais qu'en réalité le lien avec les processus géologiques globaux peut paraître assez obscur. Alors, dans le cas de l'étude des chaînes de montagne, pour nos étudiants, vos élèves, le lien est encore plus ténu parce que finalement, si on prend comme chaîne de référence l'Himalaya ou même les Alpes, bien peu de nos élèves, bien peu d'entre nous y sont allés, bien peu de nos élèves les connaissent réellement. Donc en fait, on fait un espèce d'enseignement ex cathedra qui n'est pas toujours facile. Et donc, on essaye d'en venir à un point qui est, si on construit les chaînes de montagne, c'est parce qu'on additionne un certain nombre de mécanismes élémentaires qu'on va retrouver dans toutes les chaînes de montagne. Et finalement, le premier qui a, ou parmi les premiers qui ont dit ça, ce furent les géologues alpins, avec une histoire relativement longue. Alors, l'aspect historique qui est là, je ne vais pas le développer de manière très développée. Mais il y a eu un âge héroïque qui est à peu près au tournant du 19e et du 20e siècle, quand les géologues ont découvert la notion de nappe et qu'ils ont construit et qu'ils ont commencé à comprendre que les chaînes de montagne étaient un empilement de nappes. Alors, associé à ces noms, il y a toute une pléiade de personnes plus ou moins connues aujourd'hui, Marcel Bertrand en particulier, un Français, des Suisses comme Chartres et Lujon. Un élève de Lujon, dont on reparlera, qui est Émile Argan. Et puis quelques autres, Staub, le français Émile Haug, et puis Pierre Termier, bien sûr. Et ce sont eux qui ont fondé cette notion de nappe avec pour outil à l'époque la stratigraphie et la paléontologie. C'est parce qu'ils étaient capables de démontrer qu'il y avait des roches plus âgées qui reposaient au-dessus des roches moins âgées qu'ils mettaient en évidence les nappes. Il y a eu, c'est pas le terme de long Moyen-Âge n'est pas de moi, il est d'un historien de la géologie dont on pourrait reparler. Mais il y a eu toute une période, disons jusqu'en 1960, où les concepts sont restés relativement figés, fixistes, finalistes, à travers en particulier les géosynclinaux, avec des outils qui n'avaient pas beaucoup progressé. C'était finalement l'apogée de la stratigraphie et de la paléontologie, reste le 19e siècle en tant que construction de ces outils. Et puis il y a toute une période qui correspond bien sûr à la naissance de la tectonique des plaques. Sur lequel il y a eu la rencontre entre les différentes communautés, les géophysiciens bien sûr, les géologues marins, les géologues terrestres, et parmi les géologues alpins, il y a quelques noms qui émergent, Marcel Lemoine, Rudolf Trumpi, Laubscher, les deux Italiens Giulio et Piero Elter, qui travaillaient pour Piero dans les Apennins et Giulio dans les Alpes, et puis bien sûr d'Alpiades ou Gary Ernst. Je reviendrai sur Gary Ernst, c'est un Américain qui a visité les Alpes à ce moment-là et qui a dit un certain nombre de choses assez importantes. Et bien sûr, les concepts qui ont été élaborés, vous les connaissez tous à ce moment-là. C'est notre vocabulaire d'aujourd'hui. Alors, pourquoi faire référence à Émile Argan? Alors, je sais bien que historiquement, on a toujours le tort de vouloir nous trouver des précurseurs, avec toutes les ambiguïtés que cela peut avoir. Parce que, OK, Quand je lis Émile Argan, je ne le comprends pas nécessairement parce qu'il utilise un vocabulaire qui n'est pas le mien et je risque de commettre beaucoup d'anachronismes. Donc, OK, c'est un exercice qu'on peut tenter, qui est intéressant dans le cas d'Émile Argan parce qu'il est contemporain de Wegener. Alors, Wegener, bien sûr, tout le monde le connaît parce qu'il a, il a fait cette première proposition de la dérive des continents qui date de 1912, son premier livre de 1915. Et la première traduction française est en 1925, mais Argan a largement contribué à la... C'est pas lui qui a traduit, mais il a largement contribué à la relecture de cet ouvrage. Argan, c'est un espèce de solitaire qui travaillait donc en Suisse, à Neuchâtel, pour la plus grande partie de sa vie, qui était un élève de Lujon, et qui, en 1911, a organisé finalement l'empilement de nappes dans les Alpes d'une manière telle qu'on n'y revient pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la nomenclature qu'il a utilisée, c'est toujours celle qu'on utilise aujourd'hui. Alors, à l'époque, il ne connaissait pas Wegener, ce qui l'empêchait pas d'être mobiliste. Ça, c'est un point qui est très important. Et petit à petit, à partir de 1915, il a quitté d'une certaine manière les Alpes et il s'est intéressé à la tectonique de l'Asie, en fondant toute la géologie depuis les Alpes jusqu'à l'Asie dans des concepts qui sont proprement wegenériens, pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est les Alpes d'Argan? Ça, c'est une figure, bien sûr, qui est extraite d'un des papiers d'Argan et qui est figurée dans un sujet de Capes pour la partie historique. Alors, le sommet qui est représenté, c'est en allemand le Matterhorn, en français, en italien, le Cervin. Un sommet emblématique, évidemment, des Alpes, que je vais vous montrer, dont on va reparler, et dans lequel on voit Argan montrer une succession de terrains. Alors, on peut les relire. Ici, VP, la pyramide sommitale, c'est Valpelin. Tout l'ensemble ici, c'est Arola. Ce qui est dessiné ici, ce sont des euphotides. Alors, ce qu'il appelle euphotides à l'époque, attention, pas de confusion, ce sont des gabbros. Comme ceux qu'on pourrait dire aux chenaillets ont été appelés à un moment des euphotides, hein, des gabbros à gros grains, mais en l'occurrence, ce sont des gabbros permiens. On retrouve en dessous d'eux une lame d'Arola. Je vais revenir sur ce qu'est Valpelin Arola. Et puis ici, les schistes lustrés dont on sait tous aujourd'hui qu'ils sont océaniques. Et comme pour lui, ceci est du paléozoïque et ceci est du mésozoïque, il y a évidemment, à la limite entre les deux, un recouvrement. Il ne dit pas un charriage. Il dit un recouvrement. Alors on verra pourquoi exactement ce terme de recouvrement et pas de charriage. Pour nous, bien sûr, aujourd'hui, c'est un charriage. Alors il faut bien comprendre qu'il avait une méthode, Argan. Son outil principal, c'était la carte, clairement. Et associé à la carte, les coupes. Et pour dessiner les structures en profondeur, il faisait deux suppositions. Il utilisait d'abord le fait que les plis sont cylindriques, c'est-à-dire que leur charnière est rectiligne, donc ce qui lui permettait qu'en tant que carte, on reverra, ça c'est la forme du Mont Rose. Puisque le pli est cylindrique, et puisqu'il a un plongement axial, c'est ça son deuxième outil, vers le sud, eh bien on peut savoir ce qu'est le Mont Rose en profondeur. Et donc par cette méthode-là, il a tracé des coupes jusqu'à une dizaine de kilomètres de profondeur, des coupes sur lesquelles, encore aujourd'hui, on ne revient pas. Pour lui, d'ailleurs, alors c'est là que les choses deviennent importantes, les ensembles qu'il cartait, les différentes unités qu'il cartait, étaient ce qu'il appelait des plis nappes. Autrement dit, si je reprends ici l'exemple du Mont Rose, ça c'est encore une figure qui est extraite du sujet du Capes, que vous reconnaissez sans doute, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà la nappe du Mont Rose. La nappe du Mont Rose, c'est un pli ici, avec une charnière ici, qui est replissée. Donc il y avait les plis nappes, et puis les plis post-nappe, puisqu'on replisse l'ensemble ici. Et à notre différence, ici est noté Z pour Zermatt, et puis avec ce figuré en noir ici, ce sont les ophiolites. Donc évidemment, pour nous, les ophiolites, ça signifie que c'est la croûte océanique et que le contact qui sépare le Mont Rose de la croûte océanique est un contact tectonique avec un déplacement important. Il y a effectivement un recouvrement, j'emploie le terme d'Argan, du paléozoïque sur le mésozoïque, mais pour Argan, il faut se souvenir que ce qui est dessiné en noir, là, c'était simplement la couverture mésozoïque. Donc, il n'y avait pas de contact tectonique, au sens où on l'entend aujourd'hui, entre les deux. Alors, néanmoins, tous les termes qu'on utilise en géologie alpine sont là. Ça, c'est une coupe complète des Alpes, on reviendra. Voilà, au plus externe, le massif du Mont Blanc ou de l'Arre. Ensuite, la nappe du Grand Saint-Bernard, c'est le Briançonnais, les ophiolites,
la nappe de la Dent Blanche, et vous reconnaissez ici la pyramide du Cervin, la nappe du Mont Rose, avec deux structures un petit peu spécifiques ici, ce qui s'appelle dans le langage d'argan un pli en retour et qu'on appelle maintenant un rétrochariage, l'enracinement de la nappe du Dent Blanche dans la zone Cesia-Lanzo, la zone du Canavese qui correspond à la ligne insubrienne aujourd'hui, et puis la partie qui s'appelle Ivrée ou qui s'appelle le Sud-Alpin pour nous aujourd'hui. Donc tout notre vocabulaire des différentes unités, il faut bien comprendre que c'est un vocabulaire argandien. Et en ce sens, on est tous des argandiens. Alors, ceci étant, un siècle après, ou quasiment un siècle après, oui, plus d'un siècle après, parce que la grande synthèse, c'est 1911, les figures que je vous ai montrées, c'était 1909. Plus d'un siècle après, qu'est-ce qui a changé ou n'a pas changé? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, c'est que, de toute façon, le terrain reste la base de tout notre travail. Voilà, sans connaissance de terrain, sans carte, sans coupe et sans cailloux, il n'y a pas de géologie. Voilà. Alors évidemment, ce que je vous montre là, vous l'avez reconnu, c'est le Cervin vu du côté italien. Donc l'arête que l'on voit au fond, c'est la frontière entre l'Italie où nous sommes et la Suisse de l'autre côté. Et les différentes unités, c'est celle qu'a dessinée Argan dans sa coupe, d'accord, Valpelline au sommet, Arola qui constitue la majeure partie de la pyramide, une intrusion gabbroïque qui est ici relativement épaisse, qu'il dessinait également, c'est les euphotides pour parler son langage, et puis en dessous les unités océaniques dans lesquelles on distingue aujourd'hui deux unités, une unité qui s'appelle supérieure qui s'appelle le Combin, qui n'est pas éclogitique, et une unité inférieure qui est éclogitique, qui s'appelle la zone de Zermatt. Zermatt, c'est un village en Italie qui est juste de l'autre côté du petit col qui se trouve là-bas au fond. Donc voilà, ça, c'est le vocabulaire d'argan. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant les cailloux en question? Alors, Valpelline, c'est de la croûte inférieure, c'est de la croûte continentale inférieure. Alors, pourquoi est-ce que c'est de la croûte continentale inférieure? Comment le sait-on? Eh bien, on le sait parce que quand on examine les roches, dans les secteurs où elles n'ont subi aucune déformation alpine, il en existe beaucoup, elles montrent un métamorphisme de haut degré. Alors, je vais essayer de faire simple pour tout ce qui est métamorphisme, mais ce que vous voyez là, ce sont des migmatites. Mais des migmatites où, quand la roche fond, on produit en même temps que le liquide un minéral résiduel, en quelque sorte, un minéral qui prend la majeure partie du fer et du magnésium qui ne rentre pas dans le liquide. Et donc, évidemment, les réactions de fusion, c'est l'amphibole qui contient l'eau réagit avec le plagioclase pour donner du grenat et du liquide. Et vous voyez que ces grenats sont relativement abondants, avec des tailles qui peuvent atteindre 5 ou 10 cm. D'autres réactions de fusion produisent également un minéral anhydre. La hornblende hydratée réagit avec le plagioclase pour former un minéral anhydre plus le liquide. Toute l'eau va dans le liquide. Et effectivement, les leucosomes ici sont des leucosomes avec du pyroxène, alors qu'ici, la roche de départ, c'est une roche à amphibole plagioclase. Bon, ce processus conduit à quoi? À produire des granites, des diorites, des granites quand ce sont des sédiments pélitiques qui fondent, alors que là, ce sont des roches, d'anciennes roches basiques. Okay, mais le résultat est là. La croûte inférieure, elle est partiellement fondue. Alors, on sait que c'est la croûte inférieure parce que si on fait des estimations barométriques dans ces roches, on obtient des pressions de l'ordre de 7 ou 8 kilobars, ce qui veut dire qu'on est à peu près dans le tiers inférieur d'une croûte continentale d'épaisseur normale. Donc Valpelline, qui est au sommet du Cervin, nous montre ce qui se passait, au Permien en l'occurrence, à la base de la croûte continentale. Arola, eh bien, si on produit des granites dans la croûte inférieure, si on produit des liquides granitiques dans la croûte inférieure, ils ont tendance à monter vers la surface. Et effectivement, Arola, ce sont des granites, des quantités gigantesques de granites. L'unité d'Arola, ce sont presque que des granites permiens, donc le même âge évidemment que la fusion partielle dans la croûte inférieure, avec des aspects tout à fait classiques. Ça, ce n'est pas pris en Bretagne et à Poumanac, hein, c'est réellement pris à Arola. Donc des faciès qui ne sont pas déformés, qu'on reconnaît en tant que granites, comme tout un chacun. Et puis évidemment, la tectonique alpine, parfois, elle passe par là, et les granites sont transformés en orthogneiss, et ces orthogneiss se sont parfois violemment plissés. Donc ça, c'est des secteurs où, évidemment, le protolithe n'est quasiment plus reconnaissable, mais le protolithe était quelque chose de similaire au granit qu'on voit là. Toutes les transitions entre les deux peuvent être vues. Alors pour nous, évidemment, pour Argan aussi, toutes ces roches appartiennent à quelque chose qui s'appelle la nappe de la Dent Blanche. Alors la nappe de la Dent Blanche, c'est un grand symphorme dont je vais vous montrer les deux bordures. Alors il y a tout d'abord une bordure côté ouest. Tout ce qui est au-dessus du trait rouge, ce sont les roches paléozoïques, en l'occurrence de l'unité d'Arola. Tout ce qui est en dessous du trait rouge, ce sont les unités océaniques, les schistes lustrés, c'est-à-dire les sédiments, plus quelques roches basiques ou ultra-basiques. D'accord ? Donc voilà clairement un contact chevauchant qui met en place la nappe de la Dent Blanche, le continent, sur l'océan. Alors, pas de méprise sur le fait que le trait rouge soit interrompu. Il y a une arête secondaire ici. Et si on dessinait évidemment le trait rouge, il est continu avec celui qu'on voit là. Et on a les fameux en carte V de vallée qui permettent de montrer effectivement, en l'occurrence sur une crête, que le pendage se fait vers la droite ici. Alors, nous voici de l'autre côté. Vous reconnaissez votre pyramide fétiche, le Cervin. Voilà. Et puis maintenant, tout à l'heure, on a vu sa constitution. Donc là, le sommet Valpelline est dans les nuages. Arola se reconnaît encore très bien. Et puis la limite entre le Gabbro et Arola, c'est la petite zone qui est ici. Donc voilà, ça, c'est le Gabbro permien. Et puis cette croûte continentale vient chevaucher l'océan avec les deux unités que je vous ai montrées tout à l'heure. Le combin non éclogitique en haut, Zermatt éclogitique plus bas. Et puis évidemment, de proche en proche, on peut étudier ce contact. Ici, on était précisément sur une arête pour aller regarder ce contact et on le voyait se prolonger plus loin vers le nord. Et tout à fait à droite, on retrouve ce qui est en dessous des ophiolites qui s'appelle le Mont Rose. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu. Alors, quand on descend dans la pile de nappe, il y a bien sûr les unités ophiolitiques. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le chenaillet. J'ai juste remis... je ne sais pas qui n'est pas allé au chenaillet, finalement. Ça devient une rareté. Donc... je remets juste trois points. Vous vous souvenez que ça, c'est l'arête donc, qui part de la cabane des douaniers. Vous vous souvenez qu'on a les gabbros à gauche, directement surmontés par les basaltes en coussin, ce qui veut bien dire que les gabbros étaient à l'affleurement. Pour une roche plutonique, c'est un peu étrange. Et donc, il faut bien admettre que l'océan a une structure particulière. Alors, vous savez tous maintenant que c'est lié au fait que c'est une ride lente, voire ultra lente, et que les péridotites du manteau et les gabbros sont finalement exposés à la surface, et sur cette surface viennent se déposer éventuellement les coulées de lave en coussin, les coulées de lave en coussin qui sont alimentées par des filons qu'on retrouve d'ailleurs, ça c'est bien sûr une photo très classique qui est prise tout à fait sur l'arête ici, où l'on voit ces filons qui viennent alimenter les coulées de lave en coussin, et puis plus spectaculaire, c'était le point fort qu'avait établi le moine à une époque où personne ne croyait ce genre de choses, des travaux qui ont été repris après par Yves Lagabriel, eh bien, c'est tout à fait clair que quelquefois, les sédiments, ici ce sont des calcaires transformés en marbre, reposent directement en contact stratigraphique sur les serpentinites. Alors là, c'est à l'envers, parce que la tectonique l'a mis à l'envers, mais le contact qu'on voit là, c'est des sédiments qui se sont déposés directement sur le manteau exhumé au fond de l'océan. C'est toujours au chenaillet, toujours en montant, depuis le côté Servière, hein, cet affleurement. Bon, alors, je vous ai montré l'océan. Il faut qu'on descende un petit peu plus profond. Cette fois, on va aborder alors, ce qui est en fenêtre sous l'océan. Et puis, j'ai un attachement particulier pour le massif du Grand Paradis. Donc, on va voir pas mal de choses qui concernent le Grand Paradis. Alors, sur la figure qui se trouve en haut, on voit la limite. Ce que vous devez repérer, c'est les bandes jaunes qui sont ici. Les bandes jaunes qui sont ici sont des calcaires dolomitiques, des calcaires triasiques. Et en fait, cette limite, ces calcaires, cette petite lame de calcaire, sépare tout ce qui est sur l'arête à gauche ici, c'est du socle paléozoïque. Le socle paléozoïque sur lequel ces calcaires se sont probablement déposés. Et puis tout ce qui est à droite ici, ce sont des ophiolites qui localement appartiennent à un grand massif qu'on appelle le massif de la Grivola. Alors le massif de la Grivola, c'est celui qu'on voit ici. Ce sommet, c'est la Grivola. La photographie est prise depuis les gneiss du Grand Paradis et les bandes claires que l'on voit ici, ce sont les calcaires dolomitiques. Alors, donc, le contact, il est très clairement établi. Alors, je rappelle qu'en termes argandiens, il y a bien un socle ici, le Grand Paradis, au-dessus duquel il y a une couverture mésozoïque. une couverture mésozoïque qui, pour Argan déjà, contenait le Trias, puis le Jurassique. Bon, Argan ne savait pas exactement ce qu'étaient les ophiolites. Bien sûr, pour nous, la couverture mésozoïque, c'est bien celle qui s'est déposée au-dessus du socle paléozoïque ici, mais il y a un contact tectonique majeur qui la sépare des ophiolites qui sont situées au-dessus. Le deuxième enseignement de cette image, pour nous, c'est aussi que finalement, cette couverture mésozoïque, elle est extrêmement réduite. Je crois que j'en ai une image un peu plus détaillée. Toujours le même secteur, ok. Pour ceux qui connaissent, c'est le col Lausanne, c'est un col qui assure le passage entre deux vallées en Italie. Donc vers la droite, on se dirige vers la Grivola, vers la gauche, vers le Grand Paradis. Le Grand Paradis, alors sur une arête un peu plus proche, on voit qu'il est constitué de granit déformé, transformé en orthogneiss, et puis de l'or encaissant paragnésique, au-dessus desquels on retrouve ces calcaires dolomitiques plus ou moins carniolisés. Le point important, c'est que ces bandes de trias sont le seul reste de la couverture. Et on ne peut pas penser que la couverture, puisqu'on est situé sur la marge la plus distale du domaine européen au sens large, on ne peut pas penser que cette couverture était réduite à ces espèces de chicots de trias. Donc, on est obligé d'admettre que quand la tectonique alpine a commencé, la couverture a été décollée et que l'ensemble de la couverture, les quelques centaines de mètres de cette couverture, n'ont jamais été enfouis à grande profondeur dans la zone de subduction, mais sont restés quelque part en surface. Et c'est ça qui, finalement, va constituer ce que les géologues appellent au front des Alpes les préalpes, les clips préalpines. Vous savez, cet ensemble de sédiments qu'on trouve en Chablais et dans les préalpes romandes, qui n'ont pas subi de métamorphisme alpin et dans lesquels les séries sédimentaires sont les mêmes que celles qu'on peut trouver, par exemple, dans le Briançonnais. Donc là, on a sous les yeux ce phénomène de décollement. Alors, quand on s'intéresse de manière un peu plus détaillée au massif du Grand Paradis, alors, a priori, c'est une croûte continentale subductée. Il reste toujours des volumes qui n'ont pas été déformés, des volumes qui n'ont subi aucune déformation interne alpine. De sorte qu'on peut y retrouver des images qu'on pourrait voir aller à Flamanville. Je ne suis pas à Flamanville, je suis dans le Grand Paradis, je vous montrerai où exactement. Il y a ici un granit avec ses enclaves et un contact intrusif avec son encaissant qui ici est constitué de cornéennes. Et effectivement, quand on regarde en lame mince ces objets, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de foliation, il n'y a pas de schistosité alpine. On retrouve les minéraux, si vous voulez, préalpins. Alors je ne dis plus hercynien ovarius, je l'ai longtemps dit, mais je ne le dis plus, on verra pourquoi. Qui peuvent être alors soit relativement bien préservés, les petits grains de muscovite ici ou le quartz, soit par exemple quand c'était un cristal de plagioclase complètement transformé en un agrégat d'albite et de zoïsite. Donc le métamorphisme alpin a bien laissé son empreinte, mais il n'y a aucune déformation. Et quand j'ai un peu de chance, je retrouve en plus des minéraux, comme ici les petits cristaux de sillimanite en inclusion dans les grains de muscovite, qui m'indiquent qu'il y a bien eu un métamorphisme de haute température antérieur au métamorphisme alpin que je vois aujourd'hui. Et donc, nous avons un terme pour ça, c'est le terme de polycyclisme. Donc, ces unités dans lesquelles il y a deux cycles métamorphiques enregistrés, un cycle préalpin plus le cycle alpin, sont les unités dites polycycliques. Alors, évidemment, il y a bien sûr des roches qui sont déformées. Les granites sont en général transformés en orthogneiss, voire même en milonite. L'âge de ces granites, en l'occurrence, ce n'est pas un âge carbonifère, mais un âge permien. Et puis, leur encaissant, les sédiments dans lesquels ces granites ont intrudé, sont transformés en micaschistes, parachistes. Ici, en l'occurrence, avec du grenat, du chloritoïde, et puis des bandes de cisaillement qui permettent aux géologues de déterminer le sens de déplacement des unités. Donc ici, le sommet vers l'ouest, enregistrant le déplacement de l'ensemble pendant la collision alpine. Alors, je suis toujours argandien, je continue ma coupe, toujours plus au fond. Je suis dans le massif du Grand Paradis. Alors, le Grand Paradis, vous ne le voyez pas, c'est juste la neige. C'est le début de la neige qui est tout à fait à droite de l'image. Mais on est au fond du Val-Nontet. Vous voyez de loin que la foliation, elle est relativement plane, relativement horizontale, parce qu'on est au cœur du dôme. On reviendra sur ce point. Et donc, on va examiner ce qui est en fenêtre sous les ensembles polycycliques. Alors, nous y voici. C'est toujours la même vallée, simplement le flanc est là. Donc, quand les géologues font des cartes, ça c'est aussi un héritage des Suisses, Argan en particulier. on dessine aussitôt le paysage. La meilleure expression d'une carte, c'est de redessiner un paysage de façon à dire à tous les visiteurs, voici comment les choses se présentent, parce qu'elles ne se présentent pas nécessairement. Il y a des choses qui se voient bien, d'autres choses qui se voient immédiatement, d'autres choses qui se voient moins bien. On voit par exemple très bien la différence entre ici une partie très claire qui correspond à des orthognaïs et une partie plus sombre qui correspond à des conglomérats déformés ici. Voilà, il y a des choses qu'on voit à l'œil immédiatement, il y a des choses qu'on voit moins bien parce que la qualité de la diapositive est mauvaise ou parce que la qualité de l'écran sur lequel on projette les choses ne sont pas très bonnes, mais ici il y a des grands plis. Et puis ici il y a un grand contact tectonique, on y reviendra, qui sépare un ensemble supérieur qu'on vient de discuter qui contient les reliques des métamorphismes préalpins, et puis un ensemble inférieur qui ne montre aucune trace de métamorphisme préalpin. Autrement dit, l'unité supérieure, elle est polycyclique, l'unité inférieure, elle est monocyclique. Elle n'a subi qu'un seul cycle orogénique, le cycle alpin. Et dans cette fenêtre, on trouve des roches que l'on admet dérivées de conglomérats. Alors j'avoue que la première fois qu'on voit ces conglomérats qui ont subi les affres de la déformation alpine sur le terrain, on est un peu sceptique pour se dire qu'effectivement, toutes les choses que l'on voit en relief, là, allongées, sont d'anciens galets de quartz étirés. Les choses sont beaucoup plus claires quand on a l'occasion de voir un autre ensemble, toujours au même endroit, mais où cette fois, on reconnaît très clairement une stratification et même, si l'on veut, un granoclassement. Donc cette fois, on n'a pas de doute sur le fait qu'on voit bien un conglomérat. Alors l'autre difficulté ici, c'est que ce conglomérat est monogénique, il y a exclusivement ou quasiment exclusivement des galets de quartz, alors que ce conglomérat est polygénique, il y a différents types de galets, je ne rentre pas dans les détails, mais ça facilite un petit peu le travail. Et puis surtout, l'autre point, c'est que ce conglomérat, il est très riche en graphite, et ce graphite, bien sûr, dérive de matière organique, métamorphisée, et donc un conglomérat graphiteux, logiquement, ça devrait être du carbonifère supérieur, c'est notre houillé. Voilà, tout simplement, qui est en fenêtre, sous un socle charrié sur lui. D'accord ? Argan savait ça aussi. Pas à propos du Grand Paradis, mais à propos du massif de Doramaira. Et quand on a un peu de chance, alors quand je dis un peu de chance, on peut se déplacer effectivement ici. Je dois dire que les aléas du climat nous aident beaucoup. Il y a une dizaine d'années, aller à cet endroit était un petit peu... limite, parce que c'est juste sous le front du glacier, il y avait quelques chutes de sérac, donc il fallait faire assez attention à ce qu'on faisait. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a quasiment maintenant 15 ans. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas tranquille et prendre un bain de soleil aussi longtemps que vous voulez. Le glacier, il a tellement reculé qu'on est à 200 ou 300 mètres du front du glacier et il n'y a plus une seule chute de sérac. Donc pour ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, comparez vos photographies des mêmes endroits dans des glaciers dans les Alpes à 15 ou 20 ans d'intervalle, et on verra. Bon, on peut aller étudier le contact, bien sûr, à cet endroit-là, et l'étudier en détail et montrer qu'effectivement, il y a une zone mélonitique, qu'on voit en particulier sur la photographie de droite, à la base de l'unité chevauchante du Grand Paradis. Ce qui permet de faire toute une série de coupes, vous connaissez ce processus. Alors, c'est là que les choses ont changé un petit peu depuis Argan. Ce qui est en vert sont les ophiolites. Et pour nous, les ophiolites sont clairement alloctones. Elles appartiennent également à une nappe. À ceci près qu'on a déjà, insidieusement ou consciemment, changé notre vocabulaire. Je ne dis plus un pli nappe. Et je ne dis plus que ce contact est simplement un contact stratigraphique entre les roches vertes et ce qui est en dessous. C'est un charriage. Et puis, dans ce qui est en dessous, j'ai différentes unités qui sont relativement peu épaisses. Alors là, l'échelle des longueurs et l'échelle horizontale et verticale sont les mêmes. Okay, donc, l'avantage de ces vallées alpines, c'est qu'il permet parfois des coupes de 2 km d'épaisseur, comme dans ce cas-là. Donc, on se rend compte que les unités sont relativement peu épaisses. Au final, on empile des unités qui font 1 ou 2 km d'épaisseur à tout casser. Voilà. Ce qui n'est pas énorme. Alors, les conclusions qu'on en tire, c'est que bon, j'ai parlé beaucoup du Grand Paradis, j'aurais pu parler du Mont Rose ou de Doramaira, que vous connaissez tous à cause de la coésite, on va y revenir, sont des fenêtres, bien sûr, sous les unités ophiolitiques. Leur couverture mésozoïque, que je vais qualifier de briançonnais sans entrer dans les détails des stratigraphes, est décollée. Elle est partie à l'avant des Alpes. Et le socle est découpé en petites écailles sous lesquelles on retrouve du carbonifère, et d'aucun argan, encore une fois, a dit que le carbonifère qu'on retrouvait donc dans l'équivalent de la fenêtre du Monet à Doramaira, une unité qui s'appelle Pinerolo, était l'équivalent de la zonouillère. Donc c'est comme si on retrouvait sous notre ensemble polycyclique le front de la zone briançonnaise. Bon, la géométrie globale des coupes, en clair, n'a pas changé. Là encore, j'ai extrait cette coupe, je l'ai retournée pour qu'elle soit dans le même sens que celle d'Argan, d'un document qui figurait dans un des sujets du CAPES. Et donc, terme à terme, effectivement, on retrouve les mêmes choses. Hein. Ça, c'est la ligne du Canavese, c'est ça. Ça, c'est bien sûr le Sud-Alpin, Ivré, Cesia-Lanzo, le Mont Rose, avec sa forme en cornue caractéristique, hein, le pli replissé. Ici, le Grand Saint-Bernard, alors puisqu'on est très au nord, c'est l'équivalent de notre Briançonnais, qu'on retrouve à la fois sous le Mont Rose ici, et puis ce fameux pli en retour ici, ce rétrochariage si vous voulez. Évidemment, la nappe de la Dent Blanche ici avec le Cervin, et puis la coupe se complète un petit peu par rapport à celle d'Argan au-dessus, avec l'empilement d'écailles qui constitue les massifs cristallins externes, Mont Blanc sur cette transversale, les clips des Préalpes, la Molasse, et puis tout à fait au loin, le Jura. D'accord ? Donc on peut se demander même dans quelle mesure la coupe du Bar, ce n'est pas un décalque pur et simple de celle d'Argan. Bon, ça, je ne prétends pas. Enfin, quand Paulino d'Alpiade et Gosson ont dessiné cette coupe, ils n'ont pas fait un décalque de la coupe d'Argan. Ça veut dire que malgré tous les mois et les années qu'ils ont passé dans les Alpes, la géométrie qu'a établie Argan reste fondamentalement correcte. Alors, ce schéma structural des Alpes, vous le connaissez tous. Il a sous des formes différentes, avec des couleurs différentes, avec des documents que vous avez plus ou moins bien exposés sur les cartes géologiques que vous pouvez utiliser, la carte géologique de la France, la carte tectonique et la carte métamorphique des Alpes, etc. Vous les connaissez tous. Bon, ce que je voudrais ici, ce sur quoi je voudrais ici un peu insister, c'est qu'il y a une organisation générale évidemment des unités, Cesia Dent Blanche. Et puis ici, un ensemble d'unités, Doramaira, Grand Paradis, Mont Rose, qui forment un antiforme, ça c'est l'antiforme post-nappe. D'accord ? Et donc il y a ici un synclinal, et le tout est évidemment parallèle à l'arc des Alpes, marqué gravimétriquement par l'anomalie ici du corps d'Ivrée, sur lequel, un point sur lequel je devrais revenir. Donc cette coupe des Alpes, même si on la dessine de manière un peu différente, elle reste fondamentalement argandienne, à ceci près que les contacts tectoniques qu'on dessine sont plus des zones de cisaillement que simplement un contact stratigraphique originel entre le socle et sa couverture plissée. D'accord ? C'est le point majeur de la des choses qui changent par rapport à ce que disait Argan. Alors, ce qui a changé depuis Argan, c'est que Argan, évidemment, vivait dans un monde où les images sexy n'existaient pas. Et nous, on aime les images jolies parce que c'est joli, quoi. Voilà. Et quelquefois, on a, je dis ça aussi, un peu de mal à en extraire l'information. Je dois dire que quand je fais mon cours sur les Alpes devant les étudiants, au début, j'ai distribué beaucoup de documents. Et plus le temps passe, moins je distribue de documents et je dessine tout au tableau. Voilà. Les fragments de cartes, les coupes, je dessine au tableau. Et finalement, ce genre de documents, c'est aux étudiants d'aller chercher sur Internet. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est derrière. Alors, les données géophysiques, je viens d'en dire un bref mot que Argan ne connaissait pas. C'est la carte gravimétrique en particulier des Alpes qui montre effectivement l'existence d'une racine crustale et l'existence d'un corps dense que l'on voit ici, qui est appelé par les géophysiciens le corps d'Ivrée. Voilà cette zone dense ici dont on sait aujourd'hui, enfin dont on comprend aujourd'hui que ça veut dire que dans cette région au moins des Alpes, le manteau et proche de la surface. Bon, alors j'ai noté que c'était une singularité parce que finalement, il y a peu de chaînes de montagnes au monde dans lesquelles on voit un mot aussi proche de la surface. Voilà. Alors on peut traduire ces cartes gravimétriques en cartes de profondeur du mot. Ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Effectivement, dans les Alpes, par rapport à une épaisseur moyenne de l'ordre de la trentaine de kilomètres, on reconnaît sur cette carte bon, les zones de rift oligocène et puis l'approfondissement dans les Alpes du Mont-Haut et puis brutalement cette limite qui est la paléolimite de plaque avec la plaque adriatique de l'autre côté ou apulienne comme vous voulez et ici un mot qui devient relativement proche de la surface. Ça va être une constante de toutes les coupes qu'on va pouvoir dessiner quand on va dessiner les coupes en profondeur. Et effectivement, on ne se prive plus aujourd'hui de dessiner des coupes en profondeur, alors des coupes d'échelle crustale qui représentent la totalité de la croûte, mais aussi des coupes d'échelle mantélique qui montrent le manteau lithosphérique et puis éventuellement le manteau asthénosphérique. Et ce que montre cette coupe, un exemple parmi bien d'autres, c'est qu'effectivement, il y a une croûte continentale qui disparaît en profondeur sous le manteau lithosphérique adriatique, qui est justement appelé le manteau d'Ivrée, parce que l'anomalie gravimétrique positive que l'on voit est liée au fait que ce manteau arrive très proche de la surface. Et puis la deuxième chose que l'on voit ici, c'est qu'il y a un détachement d'une partie de ce manteau, de sorte que l'asthénosphère revient assez proche de la surface dans cette région ici. On verra quelles conséquences ça peut avoir, ça. Donc ça, ces notions, quand on regarde les travaux d'Argan, le mot n'est pas quelque chose qui est clair chez Argan. Et puis, a fortiori, même s'il connaissait la distinction entre la croûte et le manteau, ces coupes ne montrent pas le mot. D'accord ? Et là, l'autre chose qui, évidemment, n'existait pas chez Argan, parce que ça, c'est la tectonique des plaques, c'est la notion de lithosphère. Le fait qu'effectivement, il y ait ici une zone lithosphérique qui comprend à la fois une portion crustale et une portion mantélique. Ça, c'est quelque chose qui était totalement inconnu du temps d'Argan. Alors, on peut compléter nos données, bien sûr, avec des profils sismiques de différentes sortes. Alors, ça, c'est un profil que vous avez déjà vu souvent illustré, que vous connaissez bien. On peut aussi faire des images, de très belles images plus récentes. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu déjà aussi, où l'on voit qu'effectivement, avec des techniques un peu plus sophistiquées, on arrive à montrer qu'il y a bien un fragment de croûte continentale qui vient plonger sous le manteau adriatique. Donc cette fois, on a une excellente image de ce phénomène de premier ordre quand on étudie bien sûr les Alpes. Et puis l'autre chose qui a changé depuis Argan, ce n'est pas simplement le fait que je sois pétrologiste qui me fait dire ça, c'est que Argan ne connaissait rien de la signification du métamorphisme. Il était parfaitement capable de reconnaître, comme d'ailleurs les Italiens en particulier à l'époque, comme d'ailleurs Termier, il était parfaitement capable de reconnaître les minéraux. Je signale par exemple qu'un minéral classique pour nous qui est la lofsonite, Termier l'a identifié, a compris que c'était un minéral qu'il ne connaissait pas, et un ou deux ans après, il y a un Américain qui a nommé ce minéral qui s'appelle la lofsonite. Mais en réalité, les premiers qui ont vu la lofsonite, qui en ont décrit les critères optiques, c'est Termier et Franchi pour les Italiens. Voilà. Donc ils étaient des excellents, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils étaient d'excellents pétrographes, pétrologues, mais évidemment, il n'y avait pas l'ensemble des données expérimentales que l'on connaît aujourd'hui qui nous permettent de nous situer. Alors là aussi, je reviendrai sur certains points à la fin, mais vous savez tous que si on prend les unités océaniques, elles ont subi des chemins alors prograde puis rétrograde, d'enfouissement puis d'exhumation, qui ont conduit, bon, le Chenaillet restait toujours en surface, mais qui ont conduit, par exemple, le Queyras à, disons, admettons, entre 15 et 20 kilobars, le Viseau de manière un peu plus élevée puisqu'il contient des éclogites, et éventuellement une toute petite unité à Zermatt qui contient de la coésite et du microdiamant, encore à des pressions plus élevées. Vous avez remarqué que j'ai fait un petit peu attention dans ce que j'ai dit là. J'ai toujours utilisé le mot pression et pas le mot profondeur. Voilà. Même si l'axe qui figure ici, c'est un axe des pressions, et on verra pourquoi j'ai un petit souci de rigueur qui est bien de dire que les pétrologues établissent une pression. Voilà, et qu'on va devoir discuter un petit peu le sens. Alors évidemment, pour nous, de prime abord, pour vous, pour nos étudiants, ce sont des profondeurs distinctes, et ce qu'on enregistre là, c'est jusqu'où, dans la zone de subduction océanique, jusqu'à quelle profondeur, dans cette zone de subduction océanique, ont été enfouies ces différentes unités. Alors on peut faire le même type de travail pour les unités continentales, alors, avec différents types de chemins pression-température, certains, le plus classique pour vous, c'est évidemment Dora Maïra, que j'ai appelé Dora Maïra 2, pour ne pas employer des noms trop locaux, la fameuse unité où Christian Chopin a découvert en 1984 la coésite. Voilà. Donc, le premier exemple où la communauté géologique dans son ensemble a définitivement accepté qu'il pouvait y avoir non seulement la lithosphère océanique qui disparaissait dans les zones de subduction, mais aussi des portions de lithosphère continentale, des portions de croûte continentale. Ceci étant, Dora Maïra dans son ensemble n'est pas acoésite. La majeure partie de Dora Maïra, c'est plutôt des éclogites au sens classique du terme. Et puis, les équivalents de ce que je vous montrais tout à l'heure, les faciès sédimentaires graphiteux et conglomératiques, eux n'ont jamais subi le faciès des éclogites et n'ont connu qu'un faciès des schistes bleus. C'est l'unité qui est appelée Pinerolo dans le massif de Dora Maïra. Alors ça, c'est un corpus de données, carte, coupe, chemin, pression, température, âge, je n'ai pas dit un mot sur les âges. En l'occurrence, les âges, vous voyez que pour les unités océaniques, grosso modo, c'est 45 ou 50 millions d'années. Pour les unités continentales, c'est un peu plus récent. Il semble que Dora Maïra, ça soit 35 millions d'années. On pourrait discuter pour les unités dites austro-alpines, c'est un peu plus vieux. Mais il y a un gros travail qui est fait par la communauté des géochronologistes en ce moment pour essayer de calibrer ces âges, ce qui est particulièrement difficile. Quand j'ai commencé mes travaux dans les Alpes, nous pensions tous que le métamorphisme de haute pression était à 100 ou 110 millions d'années. Et les premiers modèles que j'ai établis considéraient que partout, l'âge du métamorphisme était à 100 millions d'années. Tous les modèles que j'ai faits à cette époque sont faux. D'accord ? Donc un peu d'humilité, 20 ou 30 ans après, on se dit qu'on se calme. La situation a beaucoup évolué, les géochronologistes ont fait un effort énorme et ont montré qu'effectivement, toutes les éclogites n'avaient pas les mêmes âges. Mais on a encore beaucoup de difficultés à vouloir une précision, disons, de l'ordre. Il nous faudrait, pour calibrer proprement les choses, une précision de l'ordre de 1 ou 2 millions d'années. Et ça, on n'est pas encore tout à fait près de cet objectif, pour différentes raisons techniques que je pourrais éventuellement expliquer. Alors ça, c'est un jeu de données qu'il faut essayer de transformer. Alors maintenant, c'est une partie plus didactique. Qu'est-ce que je vais faire avec ces données pour ne pas me perdre dans les détails et présenter les choses aux étudiants? Alors les règles du jeu que je me suis données sont les suivantes. Je vais vous présenter trois cartes à la même échelle. Une carte structurale, bien sûr, et puis un fond structural pour deux cartes métamorphiques. Et je vais essayer d'associer à ça un schéma évolutif. Un schéma évolutif qui respecte deux contraintes. Alors l'échelle des hauteurs est égale à l'échelle des longueurs, premier point. Et le deuxième point, c'est pas de changement d'échelle au cours du temps. Ça, c'est le plus terrible. Parce que autant une zone de subduction dans le passé lointain, je vais la dessiner comme une zone de subduction, mais s'il faut que je représente ma nappe de Digne à la même échelle que aujourd'hui que ma zone de subduction il y a 100 millions d'années, la nappe de Digne, c'est plus rien. Alors que quand je suis à Digne, ça me paraît quelque chose d'absolument splendide, merveilleux et gigantesque. Donc là, on a toujours un problème. Voilà, ce problème d'échelle, il est tout à fait classique. Hein. Alors bien sûr, ce que je présente ici a des limites. Hein. C'est un exercice didactique, comme vous savez, quand on fait des choses de ce type-là, on ment pour la bonne cause. Donc on le sait tous, il faut simplement rester conscient de ce sur quoi l'on ment, des approximations que l'on fait et dans quelle mesure ça va nous permettre de développer des concepts. C'est bien ça le point. Alors les choses, les limites des modèles que je présente, c'est un modèle 2D qui ignore complètement que les Alpes, bien sûr, c'est une chaîne arquée et que l'arc des Alpes, c'est un phénomène 3D qu'on ne peut comprendre que si on prend l'ensemble des choses en compte. Et puis le modèle que je présente, c'est un modèle géométrique et dynamique, mais qui n'implique aucune hypothèse sur les forces motrices ou le comportement rhéologique des roches en profondeur. Ça, c'est un aspect qu'on peut aborder éventuellement sur le terrain ou qu'on aborde avec des modèles numériques, mais dans une coupe en lui-même, on en voit bien peu. Alors, le schéma structural, vous le connaissez tous. Hein, je n'ai pas besoin de le commenter de manière trop détaillée. Vous savez que chaque domaine a une histoire sédimentaire propre. Donc, les domaines qu'avaient distingué les stratigraphes dès la fin du 19e ou début du 20e siècle, hein, le domaine dauphinois-helvétique, le domaine briançonnais, un domaine qu'à l'époque, ils appelaient plutôt piémontais, un domaine sud-alpin, c'est des séries stratigraphiques différentes, mésozoïques, mais qui reflètent bien sûr une histoire différente de la paléomarge ou des deux paléomarges. Alors les limites entre ces domaines sont bien sûr des failles inverses, d'où le concept de nappe, et je dis bien de nappe au sens où on ne dit plus des pluies-nappes, comme Argan le disait. On pense qu'il y a un contact basal, qui est une zone de cisaillement fragile ou ductile en général, mais le long de laquelle il y a un déplacement significatif entre, par exemple, le mésozoïque et le socle. Et puis, une chose que je suis... je ne sais pas si je suis obligé de le dire, mais que la tectonique n'a jamais identifié une nappe. Ce qui identifie les nappes, c'est la stratigraphie et la paléontologie d'un côté. C'est parce qu'il y a des roches plus vieilles au-dessus de roches plus jeunes qu'on se doute qu'il y a un contact tectonique. C'est parce qu'il y a des roches métamorphiques de plus haut grade sur des roches métamorphiques de moins haut grade qu'on soupçonne un contact tectonique. Là où l'analyse structurale et la tectonique devient un outil majeur, c'est quand il s'agit de quantifier le déplacement et les mécanismes par lesquels le déplacement a eu lieu. Mais si pendant un siècle, tout le monde a pensé que les ophiolites, c'était la couverture normale du Grand Paradis ou de Dora Maïra, c'est bien que le contact tectonique, il ne saute pas aux yeux. Le contact tectonique, il a sauté aux yeux de tout le monde. Le jour où on a dit, ah ben oui, mais les roches vertes, c'est des ophiolites, c'était la croûte océanique. Et dans ce cas-là, les géologues ont repris leur marteau, sont venus avec les tectoniciens sur leur terrain, et leur ont dit, ben oui, ça c'est les ophiolites, ça c'est la croûte continentale, et là, il y a un contact tectonique. Ah oui, je le vois comment maintenant? Et voilà, maintenant, je peux analyser la déformation, essayer de caractériser les critères de cisaillement, le centre de déplacement, etc. Alors, l'idée était donc la suivante, construire une coupe qui exprime un petit peu les choses de base, c'est-à-dire les concepts centraux que voici. Une chaîne de montagne résulte d'une convergence de plaques, c'est-à-dire d'un raccourcissement horizontal. Bon, trivial, mais le raccourcissement horizontal, on doit le voir. C'est-à-dire que la manière dont est construite la coupe, c'est deux points fixes. Admettons que ce soit Turin à droite et puis, Genève à gauche. On doit voir, bien sûr, ces deux points se rapprocher. Alors, on considère aussi en général qu'à la subduction océanique fait suite. La subduction océanique, c'est ce qui est en théorie le plus ancien. L'océan disparaît et puis finalement, les deux marges continentales entrent en collision et l'on construit progressivement un empilement d'écailles continentales qui conduisent à la formation d'un prisme orogénique. Alors, ça, c'est ce qu'on voit a priori ici, avec un petit bémol sur lequel je vais devoir revenir. Les choses les plus anciennes dans l'histoire des Alpes, c'est ce qui se passe dans le domaine austro-alpin, dans la zone Césia et dans la Dent Blanche. Et ici, vous voyez que la zone Césia et la Dent Blanche sont déjà impliquées dans un processus d'épaississement dont on a tout lieu de penser qu'il est antérieur à la subduction de la portion de l'océan qui est représentée ici. Je vous ai dit que les âges dans les éclogites du Viso, par exemple, c'est 45 millions d'années. D'accord ? Voilà, ça se passe à ce moment-là, mais il s'est passé quelque chose avant. Quelque chose avant qui implique une croûte continentale. Donc ça, c'est un point sur lequel, de manière didactique, ce schéma, ok, motus est bouche cousue. Je ne suis pas au courant. J'évite la difficulté. Alors évidemment, au cours du temps, l'autre chose que vous connaissez parfaitement, c'est qu'on passe du flysch à la molasse. Les flysch, c'est les sédiments, essentiellement des turbidites, déposés au bas d'une pente, dans un domaine relativement profond, alors que le domaine marin ou océanique l'est encore lui-même relativement profond. Donc le flysch, il évolue au cours du temps. Vous retrouvez ses caractéristiques ici. Il est précoce dans l'histoire de la chaîne de montagne. Et il est bien sûr interne. Voilà. Et puis, petit à petit, donc on voit ce flysch qui existe. Alors ça, si vous voulez, un repère, c'est le flysch helminthoïde, d'accord, qui est déposé sur le prisme d'accrétion ou même sur la croûte océanique au moment où le domaine adriatique est déjà partiellement engagé dans une frange tectonique et érodé. Et puis petit à petit, vous savez que le flysch se déplace au front de la chaîne de montagne. Donc ça, ce serait le flysch noir briançonnais. Et puis on arrive au flysch ici qui est dans le domaine valaisan pour finir dans le flysch, les sédiments les plus anciens, tertiaires, du domaine helvétique à proprement parler. Et à partir de là, on alimente considérablement en matériel, on épaissit considérablement toute cette portion de la croûte continentale. Et du coup, on flexure moins facilement aussi l'ensemble de la lithosphère. Et donc, on passe à un domaine où on dépose des sédiments plus grossiers à des profondeurs moindres. Et bien sûr, c'est la molasse. Et donc, les derniers épisodes ici sont des épisodes où sédimente la molasse, les deux derniers épisodes. Et tout à fait au sommet, d'ailleurs, il n'y a plus marqué molasse parce que simplement, aujourd'hui, le bassin molassique, il n'est effectivement pas en cours de fonctionnement. Il a cessé de fonctionner. Alors, ce que doivent illustrer aussi ces schémas, c'est que le prisme orogénique s'agrandit au cours du temps. Voilà. Le trait rouge, les deux traits rouges qui sont ici, marquent les limites tectoniques majeures entre, pour le trait qui est à droite, le domaine adriatique et puis le prisme orogénique en cours de construction. Et ce trait ici marque l'évolution dans le temps de la base du prisme orogénique. Et ce que vous voyez, c'est que ce domaine, alors ce trait rouge, pour l'essentiel le trait basal, j'entends, progresse au cours du temps de l'intérieur vers l'extérieur de la chaîne de montagne, encore une chose très classique pour toutes les chaînes de montagne, avec une géométrie que vous connaissez aussi qui est en plat, palier et rampe. D'accord ? Donc on le voit effectivement qui progressivement est bien sûr au début restreint à un contact qui est très interne, mais qui devient de plus en plus externe et finit par le décollement au niveau du contact entre le socle et la couverture mésozoïque et ultimement au front du Jura. D'accord. Donc l'intérêt de souligner en rouge ces deux contacts, c'est que ça permet effectivement aux élèves, aux étudiants, de comprendre que le prisme orogénique, c'est quelque chose que petit à petit se construit. Et là, l'intérêt de rester toujours avec la même échelle, c'est que ça permet de bien percevoir les choses dans le temps. Alors, pour le métamorphisme, la carte qui est le plus souvent utilisée dans nos cours, c'est le métamorphisme alpin. Je vais dire quand même quelques mots du métamorphisme anté-alpin. Alors, vous avez vu que je prends quelques précautions. Il y a encore un ou deux ans, j'aurais dit le métamorphisme varis-couercinien, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Voilà. Il se trouve que j'ai aucun problème à parler de métamorphisme varis-couercinien quand je suis dans la zone externe, c'est-à-dire dans les massifs de l'Arre et du Gothard, des aiguilles rouges, du Mont-Blanc, Belledonne, Pelvoux, Argentera. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau au massif central, au massif armoricain. D'accord ? On a, pour les parties métamorphiques, des reliques d'éclogites ou de granulites de haute pression, on a des migmatites, et puis on a une succession d'intrusions granitiques qui s'achèvent il y a 300 millions d'années, avec peut-être le granit le plus célèbre de tout le coin, qui est le granit du Mont-Blanc. Voilà. Donc ça, c'est pas différent de la Bretagne. Voilà. Donc je retrouve les choses que je connais par ailleurs bien. Par contre, dans tout le domaine Briançonnais, au sens strict, Doramaira, Grand Paradis, Mont-Rose, Césia, et puis Sud-Alpin, le magmatisme, les granites, sont de manière dominante permien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez ? Valpelline, c'est la fusion de la croûte inférieure au permien. Arola, ce sont des granites permiens. Et si vous réfléchissez bien maintenant, dans le domaine Briançonnais, l'essentiel du volcanisme que l'on connaît, c'est un volcanisme permien. Donc en fait, on a trois expressions à trois niveaux structuraux différents d'un même phénomène qui est un magmatisme permien qui implique, bon, bien sûr, qu'il se passe des choses considérables dans le manteau, voire dans la sténosphère, parce qu'il y a un nombre considérable de gabbros associés, en particulier dans la zone d'Ivray. Hein, la zone d'Ivray, pour les géologues, ce n'est pas le corps d'Ivray des géophysiciens, c'est la zone qui est ici en jaune. Là, il y a une quantité considérable de matériaux basiques accrétés en base de croûte qui probablement contribuent à la fusion partielle, justement. Et donc, on est là dans un domaine où l'essentiel de l'histoire magmatique, elle est permienne. Alors, qu'est-ce que j'en déduis ? J'ai oublié d'en déduire que, d'une manière ou d'une autre, les structures alpines, elles sont héritées de l'histoire varisque, de l'histoire paléozoïque. Ce contact ici, qui pour nous tous est le front pénique et sépare le Briançonnais du domaine dauphino-helvétique, eh bien, il sépare aussi deux domaines de croûte durant le Paléozoïque, n'avaient pas la même histoire. Et donc, il y a évidemment des phénomènes sur lesquels il faudra un jour s'interroger un peu plus en détail, qui sont les phénomènes d'héritage. Alors, ce n'est pas tant le phénomène d'héritage qui est quelque chose d'un petit peu compliqué qui m'intéresse ici pour les élèves. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le comportement de la croûte, ce que j'ai appelé la croûte inférieure. Alors, la croûte inférieure, c'est le tiers inférieur, d'accord ? Disons entre 6-7 kilobars et une dizaine de kilobars en termes de pression. Et ce que l'on voit sur la carte, c'est que les seuls endroits, sur la carte du métamorphisme préalpin, les seuls endroits où l'on trouve cette croûte inférieure à l'affleurement, c'est au Cervin. Bon, au Cervin, c'est le sommet de l'unité de Valpelline ici. Le Cervin, il est là. Et puis, dans quelques autres unités de la zone Césia, dite austro-alpine, et puis, bien sûr, indemne de toute déformation alpine, dans la zone d'Ivray. Bon, ben ça, c'est une chose qu'il faut montrer sur une coupe. Alors, le montrer sur une coupe, c'est une chose qu'on comprend assez facilement. Effectivement, la croûte inférieure du domaine sud-alpin, elle est progressivement portée en surface, dans la zone d'Ivray, et puis dans les nappes qui en sont issues, dans Blanche, Césia, au moment de la collision alpine. Et donc, il y a un lien très fort entre le corps d'Ivray des géophysiciens, qui est cette portion de manteau ici qui va revenir progressivement très proche de la surface, et le fait qu'à fleur, dans la zone d'ivrée des géologues, les granulites. De la même manière, je comprends très bien, on a parlé du Mont Rose, du Grand Paradis, je vous ai montré des exemples de métamorphisme antéalpin, mais je n'ai jamais prononcé le mot de granulite ou de fusion partielle. On voit des choses qui relèvent de métamorphisme plus faibles, ce qui veut dire que la croûte inférieure dans le domaine orogénique alpin, à part l'austro-alpin, n'est jamais revenue en surface. Donc je ne dois jamais revoir en surface cette portion de croûte inférieure, qu'elle soit dans le domaine dauphinois ou dans le domaine briançonnais. Et au fur et à mesure ici, je ne dois pas la voir, ce qui veut dire inévitablement que j'ai décollé la croûte supérieure de la croûte inférieure à un moment donné quand j'ai construit mon prisme orogénique. D'accord ? Sans quoi, à un moment donné, l'une des nappes, elle aurait dû m'amener cette croûte inférieure aussi en surface. Alors maintenant, une image plus classique est celle du métamorphisme alpin. Alors je vais dire, les pétrologues s'enorgueillissent du fait que le métamorphisme est le seul enregistrement des perturbations en pression, température, temps, quand les géochronologistes les aident à le mesurer. Donc c'est effectivement le seul enregistrement effectif que l'on a du déplacement en profondeur des unités. Alors, le premier qui a pointé ça vraiment du doigt, c'était Gary Ernst. J'ai fait allusion à cet Américain qui, à l'époque, avait conclu un accord de collaboration avec des Italiens et avait fait une carte métamorphique des Alpes en 1971, donc c'est très précoce dans l'histoire, dans lequel il disait, ben voilà, le gradient métamorphique dans les Alpes, il est croissant des zones externes vers les zones internes et il indique clairement la polarité de la zone de subduction. Ernst était quelqu'un qui a fait deux contributions majeures, la deuxième c'est celle-ci, la première on en reparlera. Donc ok, il y a bien une zone de subduction dans les Alpes. Mais quand on associe une carte structurale à une carte métamorphique, eh bien on s'aperçoit d'un autre point qui est majeur, c'est que en fait, il y a des discontinuités d'histoire métamorphique qui correspondent aux discontinuités tectoniques majeures, aux contacts tectoniques majeurs. Pour tout dire, je prends un exemple que tout le monde connaît, la coésite à Dora Maïra, c'est une unité ici qui fait quelques centaines de mètres d'épaisseur, quelques kilomètres, d'accord, carrés, qui est toute petite et qui est au-dessus des schistes graphiteux carbonifères et en dessous d'autres unités qui sont également éclogitiques mais pas coésites. Donc ici, il y a une petite écaille avec des matériaux moins métamorphiques au-dessus, un peu moins métamorphiques, toujours éclogitiques, et des matériaux beaucoup moins métamorphiques en dessous. D'accord ? C'est le même phénomène que ce que je vous ai illustré ici au Monet, la petite fenêtre qu'on voyait dans le Val-Nontais. La différence entre les deux, c'est que ça affleure au niveau des glaciers, alors qu'ici, on est dans la forêt. D'accord ? C'est pour ça que j'ai préféré illustrer celle du haut, mais les choses sont exactement les mêmes. Donc, autrement dit, quand je suis dans le fameux antiforme de nappe tardif qu'Argan avait déjà identifié dans le Mont Rose, dans le Grand Paradis et dans Dora Maïra, Argan a visité Dora Maïra longuement, eh bien, je sais que je vois ce qui est en réalité en dessous de la coésite. D'accord ? Ça, c'est une chose que notre communauté n'a pas encore véritablement perçu toute l'importance de ce point, parce qu'on a l'impression que quand on va dans les zones internes, on va vers du plus métamorphique. Et si on fait une excursion d'ailleurs assez standard, on va tous aller visiter le Chenaillet, on va visiter, qui est pas métamorphique ou quasiment pas à l'alpin, le Queyras avec ses beaux schistes bleus, le Viseau avec ses éclogites, et cerise sur le gâteau, on va encore plus à l'intérieur et on trouve la coésite dans Dora Maïra. Oui, mais dans l'empilement de nappes, on est déjà élevé et il y a des choses en dessous qui sont moins métamorphiques. Donc ça, il faut aussi que nos schémas le montrent. Alors, j'ai essayé de le traduire de la manière suivante. J'ai attribué un code couleur, bleu pâle, les schistes bleus à l'opsonite. Bleu foncé, les schistes bleus à grenat épidote. Ici, les éclogites. Bon, je comprends bien que si c'est une fonction de la pression et que j'associe la pression à la profondeur, quand une plaque, quand une unité disparaît en profondeur, eh bien, plus elle est en profondeur, plus elle passe du schiste bleu à l'opsonite, schiste bleu à épidote, éclogite, éclogite à coésite, et ainsi de suite. Mais évidemment, cette structure qui est au moment où le métamorphisme a lieu ne peut pas être préservée telle que. Elle est nécessairement détruite pendant la formation de la chaîne de montagne, détruite de différentes manières. Alors la manière la plus simple de la détruire, c'est de continuer à propager les chevauchements. Et si je continue à propager les chevauchements, eh bien, par exemple, ici, je vais mettre le Briançonnais, qui n'est pas encore impliqué dans la zone de subduction, dans la zone de subduction. Et le Briançonnais lui-même va avoir une zonation avec, en fonction de la profondeur, les schistes bleus à l'ophsonite, les schistes bleus à épidote, les éclogites. Et cette zonation, elle est bien sûr transversale à la croûte ou aux différentes unités qui constituent le Briançonnais. Simultanément, les unités océaniques sont exhumées. Et donc, au-dessus de ce panneau qui est en train de se transformer, je trouve un panneau qui est déjà éclogitisé ou schiste bleuisé, mais qui remonte vers la surface, qui est exhumé et qui se transforme. Et donc, les cartes que l'on fait, bien sûr, c'est des cartes qui font référence au pic en pression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que les chevauchements, ceux que j'identifie en tant que chevauchements, ils mettent en place des unités de même degré métamorphique les unes au-dessus des autres. Par exemple, le viso est éclogitique et au-dessus de Doramaira qui est éclogitique. Mais le viso a un métamorphisme éclogitique qui est plus ancien que Doramaira. Doramaira, c'est 35 millions d'années. Le viso, c'est 45 ou 50 millions d'années. Donc, j'enfouis le viso antérieurement à l'enfouissement de Doramaira. Et j'exhume les deux au même moment, à un moment où je déplace les unités océaniques au-dessus de Doramaira. Et donc les éclogites, j'ai beau voir une unité éclogitique au-dessus d'une autre unité éclogitique, je vois une unité éclogitique plus vieille au-dessus d'une unité éclogitique plus jeune. Et donc je respecte ces fameux critères qui permettent d'identifier un chevauchement du plus vieux au-dessus du plus jeune. Sauf que là, ça ne concerne pas l'âge des roches, mais l'âge du métamorphisme qui les affecte. Bon, ça c'est un outil, les figures que j'ai là, je les distribue bien souvent en noir et blanc aux étudiants. En noir et blanc, ça veut dire aucune couleur à l'intérieur. Et donc l'objet du travail, c'est de prendre la carte géologique de France au million, les cartes, la carte métamorphique et la carte tectonique des Alpes du CGGM, et puis que les étudiants travaillent et reconstituent un petit peu les choses et qu'on arrive à discuter comment les choses se passent. Et au fur et à mesure du cours, je dessine au tableau des portions de coupe. La coupe, je ne sais pas, Keras, Viso, Doramaira, une coupe dans le Grand Paradis, une coupe du Cervin, pour que les choses se mettent en place petit à petit avec des objets qui sont plus proches de nos échelles. Alors l'idée, vous avez compris les messages que je veux faire passer, c'est ceux que j'ai indiqués ici, mais j'ai dit tout à l'heure que je mens, ou que j'obscurcis, ou que je dénature un certain nombre de points. Alors lesquels ? Alors, la première chose, c'est que j'ai représenté sur les coupes la lithosphère océanique comme ayant un manteau et une croûte bien distinctes. Ça. On est tous d'accord, c'est complètement faux. Hein. Dans une ride lente, il n'y a pas un manteau profond au-dessus duquel on n'est pas en nommant. Au-dessus duquel il y a plusieurs kilomètres de gabbros et puis le complexe filonien et des basaltes. Dans une ride lente, le manteau, il est à l'affleurement. Donc cette dichotomie que je fais là, elle n'existe pas en réalité. D'accord ? Ça, c'est un aspect, je suis bien conscient de l'avoir fait. L'autre point sur lequel je dois m'interroger, c'est les dimensions de cet océan. Alors, vous avez vu que j'ai esquivé un petit peu le problème sur ma succession de schémas. C'est une ride lente, allez, 1 cm par an. On a tous eu tendance à penser que la dimension de l'océan de l'océan Liguro-Piémontais pouvait avoir été de l'ordre du millier de kilomètres. En réalité, la durée d'expansion, elle est peut-être réduite à une dizaine de millions d'années tout au plus. Plus on affine les données géochronologiques, plus on s'aperçoit que pour les matériaux que l'on peut dater et qui sont fiables, hein, essentiellement les plagiogranites, eh bien, l'intervalle de temps pendant lequel ils sont produits dans la lithosphère océanique, c'est de l'ordre de 10, 15, 20 millions d'années. J'ai vu que récemment, puisque les apnins, c'est la même chose, les Italiens ont tendance à raccourcir terriblement la durée de vie de l'océan. Dans tous les cas, à 1 cm par an, ça nous fait un océan de l'ordre de 100 à 300 km, pas plus. Voilà, il faut bien garder cet ordre de grandeur. Alors évidemment, on a fait beaucoup de progrès aussi, que je ne détaille pas, sur les paléomarges. Et la structure de ces paléomarges, avec en particulier l'apparition de quelque chose qui s'appelle les alloctones extensifs. Le fait qu'on ne. L'image de simples blocs basculés, amincissant la paléomarge, est maintenant du passé. On a compris que Il y a beaucoup de portions de la croûte continentale, je vais revenir sur quelques images là-dessus, qui en fait flottent au-dessus du manteau. Et ces portions sont appelées des alloctones extensifs. Alors ça, il faudrait logiquement en tenir compte quand on dessine un schéma. Alors, j'ai d'autre part des choix à faire. Alors, les principaux choix sont les suivants. Des choses que, sur lesquelles la communauté dans son ensemble n'est de toute façon pas d'accord. Et donc, quand je trace un schéma, je dois prendre une position, là. C'est ça le caractère affreux de dessiner les choses. Je dois prendre une position sur où s'initie la subduction. Dans la majeure partie des cas, on pense qu'elle s'initie au front de ce qui est Césia dent blanche, qu'on qualifie d'ostro-alpin. Ça pose un petit problème, parce que Césia dent blanche contiennent des matériaux éclogitisés à l'alpin. Et donc, ça revient à dire que effectivement l'océan passe en profondeur, et au-dessus, il y a des matériaux éclogitisés. Donc, les matériaux éclogitisés qui sont au-dessus, j'ai que deux solutions pour les expliquer. Soit il y a un phénomène qu'on appelle l'érosion tectonique. Ils ont été entraînés dans la zone de subduction. Donc, il y a des framents de la paléomarge supérieurs qui sont entraînés dans la zone de subduction, ou alors la subduction ne s'est pas initiée, où je le pense, mais entre Césia dent blanche et le sud alpin. Ça, dans le langage raccourci des géologues alpins, est-ce que Césia dent blanche, c'est la plaque supérieure ou la plaque inférieure? C'est ça la question. Alors l'autre chose, c'est que si je dessine avec mes étudiants une zone de subduction, je vais leur dessiner, ok, une zone de subduction, et puis... Ce qui caractérise la subduction, c'est bien la déshydratation de la plaque océanique plongeante, déshydratation qui induit une fusion partielle de la sténosphère juste au-dessus et qui produit les magmas calco-alcalins. Donc quand il y a une zone de subduction, je m'attends logiquement à trouver un arc magmatique ou volcanique calco-alcalin qui, on me dira ce qu'on veut, n'existe pas dans les Alpes. Au Crétacé, il n'y a pas d'arc calco-alcalin. Et la raison pour moi est toute simple. Alors on peut dire qu'il n'y a pas eu de subduction puisqu'il n'y a pas d'arc. D'accord ? Ce que certaines personnes font. D'ailleurs, si on assimile les zones de subduction à ce qui se passe dans les grandes zones de subduction péripacifiques, ce n'est pas ces phénomènes-là, même d'un point de vue mécanique, qui se sont passés dans les Alpes. C'est autre chose. Par contre, bon, il y a bien de la lithosphère océanique qui a été enfouie en profondeur. Et s'il n'y a pas d'arc calco-alcalin, eh bien, j'y vois une raison toute simple. C'est que l'océan n'était pas assez large. Et puisqu'il n'était pas assez large, il n'y a jamais eu suffisamment de matériaux déshydratés pour métasomatiser la sténosphère qui était au-dessus. Et on n'a jamais produit d'arc. D'accord ? La seule alternative à ce point maintenant, c'est de dire que l'arc a existé. Il y a certains collègues qui me prétendent ça. Mais oui, Michel, l'arc, il existe, mais tu ne le vois plus, il est érodé. Bon, alors ça, je suis désolé, mais c'est un peu trop facile, on va dire. Ça n'obéit pas, pour dire les choses de manière plus correcte, ça n'obéit pas à la règle du rasoir d'Occam, la règle de parcimonie. OK ? Pas d'hypothèse adjacente que je ne peux pas contrôler. Bon, et puis, le dernier point, mais qui maintenant fait globalement accord, c'est l'origine du magmatisme oligocène. Il y a quelques granites dans les Alpes, à l'oligocène, qui sont liées au détachement de la racine lithosphérique. Et puis, il y a un débat en cours qui prend de l'ampleur, qui était inexistant il y a 10 ans, et que d'ailleurs avait clos le même Gary Ernst. Gary Ernst, son premier gros papier, a été de dire « les schistes bleus en Californie ne résultent pas de surpression tectonique ». C'était la naissance de la tectonique des plaques. Et il a dit, mais bien sûr, les plaques s'enfoncent en profondeur, les géophysiciens nous le démontrent, mais bien sûr, les pétrologues savent où sont ces roches de haute pression, ce sont les schistes bleus et les éclogites. Et à l'époque, comme on savait avec les données expérimentales que les schistes bleus et les éclogites s'étaient formés à grande pression, les gens en déduisaient, puisqu'on ne peut pas atteindre de telles pressions, c'est qu'il y a eu des surpressions tectoniques. Voilà. Ce contre quoi avait lutté Gary Ernst, et avait convaincu la communauté dans son ensemble, qui a fini par accepter que la pression, c'était une mesure de la profondeur. La question revient en surface, pas du côté des pétrologues, mais du côté des mécaniciens. Les mécaniciens sont en train de se demander jusqu'à quel point une roche peut résister à la déformation, et donc on peut y induire des surpressions tectoniques. Ça ne veut pas dire que la pression mesurée par les pétrologues est fausse. La pression mesurée par les pétrologues est correcte. Mais ça veut dire que le lien que l'on fait entre la pression et la profondeur est moins évident qu'il n'y paraît. Il faudra y réfléchir. Alors, la question est de savoir... Dans quelle mesure, jusqu'à quel point, est-ce que les surpressions représentent 5%, je m'en fiche, 10%, je m'en fiche encore, 50%, je m'en fiche plus. Ah, bon, ça c'est un débat qui est ouvert. Alors, je suis obligé d'esquisser des modèles un peu plus fins. Alors, voilà, un modèle un peu plus fin. Alors, pour l'instant, il n'est esquissé dans ce que j'ai dessiné jusqu'à présent que pour la partie la plus interne des Alpes. Et je reviens sur un certain nombre de points. D'une part, je vais commencer avec la structure de la marge. Une marge continentale, je vous ai dit, c'est des blocs basculés. Dans la marge, en tant que pétrologue, je reconnais une croûte inférieure granulitique, une croûte supérieure granitique, je veux dire les choses de manière simple. Les blocs basculés, les voici. Ils sont là-haut. Mais en fait, il y a un niveau de décollement qui s'initie grosso modo à la transition entre la croûte inférieure et la croûte supérieure, de telle sorte qu'ici, il y a la croûte supérieure qui est directement au-dessus du manteau. Et si je poursuis un petit peu ce processus, je vais trouver des fragments de croûte granitique qui vont flotter au-dessus du manteau. C'est ça, les alloctones extensifs. Et du coup, quand je vais enfuir ça en profondeur, je vais éclogitiser ceci. Et je vais éclogitiser les fragments de la croûte supérieure. Mais du coup, je vais comprendre beaucoup mieux pourquoi je ne trouve jamais de croûte inférieure dans le Mont Rose, le Grand Paradis ou Doramaïra. Parce qu'elle était... Donc je subducte ces portions de croûte supérieure et du coup, dans mon rose grand paradis d'Oramaïra, si je ne trouve jamais de croûte inférieure, ce n'est pas parce que je décolle la croûte supérieure de la croûte inférieure pendant la collision, c'est qu'elle était déjà séparée auparavant. Ça, c'est une avancée qui est relativement importante. Bon, l'autre point que l'on voit aussi ici, c'est que cette fois, je prends le parti. Encore une fois, l'autre solution est tout à fait tout aussi viable, hein, mais j'ai pris le parti de dessiner un manteau exhumé affleurant à la limite entre le domaine sudalpin et le domaine Sésiadent Blanche. Et du coup, la subduction va s'initier ici, de sorte que je pourrais effectivement faire la haute pression dans la zone Sésia avant que la portion de l'océan que je vois avec le viso ou Zermatt parvienne en profondeur. D'accord ? J'évite la difficulté de dire que j'ai un fragment de la paléomarge supérieure qui est érodé tectoniquement et qui est entraîné dans la zone de subduction. Je dis simplement que la zone de subduction commence ailleurs. Voilà. J'ai quelques arguments. Hein. J'ai les deux arguments majeurs, c'est que l'âge de la haute pression ici, dans Sésia, est plus vieux que l'âge dans l'océan. Et quand on veut dire que Sésia a été entraîné par l'océan en profondeur, on a quelques problèmes. L'autre point, c'est que, très classiquement, dans la zone que nous, Français, ignorons superbement, qui s'appelle la zone du Canavese, ici, que Argan avait déjà parfaitement noté, c'est des sédiments mésozoïques avec des ophiolites sur lesquels on trouve des radiolarites et les marbres du Malm, donc les faciès dits ligures. Il y a un papier des deux Helter, à la même époque où travaillait Lemoine, qui explique tout cela extrêmement clairement, et je ne sais pas pourquoi nous avons oublié ce point. Voilà. Bon, donc il y a bien une suture océanique qui est le long de la ligne insubrienne et qui correspond à ce que Argan appelait, je le répète, la zone du Canavese. Bien, donc j'enfouis les choses en profondeur. Alors là aussi, je suis obligé d'admettre que l'océan, il fait entre 100 et 300 km de largeur. Vous avez vu que j'ai, si je respecte les échelles horizontales et verticales identiques, mon océan, il est tout petit, hein. Alors effectivement, l'océan subducte, et pour bien comprendre cette affaire de subduction de l'océan, la seule méthode pratique que j'ai trouvée avec les étudiants, c'est d'y marquer des lettres A, B, C, D, E, F, que je vais voir petit à petit, et à ce moment-là, je vais comprendre que par exemple, C, qui était ici, vous voyez que les choses devraient être complétées, C qui était ici sous Sésia, eh bien, il est disparu loin en profondeur maintenant. Et donc là, j'illustre un autre point fondamental de la construction des chaînes de montagne, c'est qu'on décolle la croûte continentale au niveau du Moho. D'accord ? Pour empiler, pour construire le prisme orogénique, je dois décoller au niveau du Moho la croûte continentale, quel que soit son état de départ. dans les schémas antérieurs, j'ai supposé que l'état de départ, c'était tout simplement la croûte inférieure granulitique, la croûte supérieure granitique. Ici, l'état de départ est un peu différent parce que ce qui peut se trouver directement au-dessus du manteau, c'est de la croûte supérieure. D'accord ? Je signale aussi qu'a posteriori, regardons les Pyrénées maintenant et tout ce qui se fait dans les Pyrénées. Et essayons de réfléchir à la manière dont le manteau est exhumé et donc la manière dont les marges connexes à ce manteau exhumé sont organisées. Voilà. Et en retour, ben, des Pyrénées, regardons à nouveau les Alpes. Voilà. Bon, évidemment, je raccourcis et voyez que là, j'empile des unités ici. Ça, c'est Doramaira Grand Paradis, si vous voulez, Mont Rose, sous les unités ophiolithiques, bien sûr. Et je les re-empile au-dessus de la croûte inférieure dont elles ont été décollées pendant l'extension jurassique. C'est-à-dire, je me garde la contrainte que je ne vois pas de croûte inférieure en surface, mais j'admets que la croûte supérieure en a été détachée et puis que finalement, on a tout remis en, au-dessus pendant la collision alpine. Inversement, j'ai résolu un autre problème. J'ai toujours été troublé par le fait que dans le Grand Paradis, par exemple, mais on pourrait dire exactement la même chose dans le Doramaira ou dans le Mont Rose, les unités de socle que l'on empile sont aussi fines. J'ai dit tout à l'heure, c'est de l'ordre de 1 ou 1,5 km. Si c'était une croûte continentale qu'on empilait, on part d'une épaisseur qui est au moins un ordre de grandeur supérieur. Et il faut réduire cette épaisseur à quelque chose de considérable, de 10 à 1 km, on va dire, minimum. Et si on fait ça, eh bien, l'hypothèse classique que l'on fait, c'est de dire que c'est déformé parce qu'on les cisaille intensément et donc que petit à petit, on réduit pendant la déformation alpine leur épaisseur. En même temps, d'accord, mais en plus, je sais que je trouve dans ces fragments de croûte continentale des zones non déformées. Je vous l'ai montré, qui préservent les contacts intrusifs entre le granit et son encaissant. Donc la déformation, n'est pas, dans son volume global, n'est pas si extrême que ça. Le déplacement aux limites peut être très important, mais la déformation interne peut l'être beaucoup moins. Et donc, si la déformation interne est beaucoup moins, eh ben, je n'ai pas réduit son épaisseur de manière aussi significative. Et donc, là encore, j'ai une explication. Si c'était des alloctones extensifs au départ, eh bien, peut-être que je comprends pourquoi ces unités étaient aussi fines. Bon, le dernier point, c'est le point du... alors, quelque chose que maintenant, tout le monde a bien compris, l'antiforme de nappe, vous voyez, ça c'est la synforme de la dent blanche. Alors évidemment, j'ai laissé tous les schémas à la même échelle, hein, volontairement bien sûr. C'est quelque chose de tout petit, le Cervin il est là, ça c'est la zone de Césia, ça c'est le Mont Rose, ou le Grand Paradis, ou Doramaira, et on comprend tous qu'ici il y a un grand pli anticlinal, et que ce pli anticlinal n'est rien d'autre qu'une réponse au poinçonnement par le manteau adriatique. Donc, en fait, sur une carte géologique de France, on voit le poinçonnement du manteau adriatique. Okay, il y a l'image des géophysiciens qui est de nous dire, il y a le corps d'Ivrée, oui, mais l'antiforme que l'on voit à l'avant de la ligne insubrienne, c'est le résultat de ce poinçonnement. Hein, le Mont Rose, le Grand Paradis ne sont pas des choses isolées. Ce qu'avait très bien compris Argan, il avait tout un vocabulaire pour ça qui s'appelait, qui était les encellements ou les inflexions axiales. Il avait compris qu'en fait, il y avait un pli unique, mais que son axe n'était pas horizontal, que son axe il était élevé dans le Mont Rose, puis passait un petit peu en dessous de la surface qui fait qu'on voyait avec les ophiolites, remontait au niveau du Grand Paradis, redescendait un peu, puis passait un petit peu dans le Val de Suse, remontait un peu vers le nord. Ceux qui connaissent le Val de Suse, ils savent très bien que les gneiss de Doramaira s'enfoncent doucement sous les ophiolites. Et puis de l'autre côté, on voit la terminaison péri-antiformale de Doramaira. Et le dernier point, c'est je n'ai pas associé à tout cela, je n'ai pas développé d'arc calco-alcalin dans la plaque supérieure, c'est-à-dire ici, dans le sud alpin, mais j'ai fait fondre ici ce morceau d'asténosphère pendant un bref épisode, bien calé, 33, plus ou moins 1 ou 2 millions d'années, bien calé, qui produit effectivement les seuls granites que l'on connaisse dans les Alpes le long de la ligne péri-adriatique. Et ces granites viennent intruder, proche de la surface, les éclogites, par exemple, de Césia. Et donc ça, c'est le détachement de la racine lithosphérique, le seul témoin du détachement de la racine lithosphérique. Donc ça, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. Je termine pour dire... Argan, c'est une figure tutélaire. J'ai une immense admiration pour lui, comme tous les géologues alpins. Je mesure la distance qui nous en sépare. Je comprends aussi que, de son temps, il a eu du mal à être accepté. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi. Ce n'est pas tant le fait que ses idées étaient en avance. C'est surtout le fait qu'Argan, c'était quelqu'un qui écrivait de manière synthétique. Lisez ses papiers. Vous verrez qu'il parle de manière très générale. Il a levé la carte de la dent blanche au 25 millième avec une précision sur laquelle même la carte publiée par les Suisses aujourd'hui n'ajoute quasiment rien. Mais il n'a jamais publié un seul texte qui dit « voilà ce que j'ai vu à tel endroit, dans telle vallée, etc. » Non. Il a dit « l'empilement de nappes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. » Et puis ça se passe comme ça depuis le Simplon jusqu'à Doramaira. Voilà. Et il s'excuse en note infrapaginale d'ailleurs, puisqu'à l'époque, les Italiens, par exemple, étaient autochtonistes. Il s'excuse, il fait une phrase assez savoureuse dans laquelle il dit « je n'ai pas l'honneur de connaître aussi bien Doramaira que mes illustres collègues Franchi, etc. J'étais là, en particulier, malgré le fait que j'y ai passé une centaine de journées sur le terrain. Bon, » de cette centaine de journées qu'il a passées sur le terrain, on n'aura jamais rien vu. Mais il avait parfaitement compris que Pinerolo, c'était graphiteux, des conglomérats, et vous connaissez tous l'histoire géologique de l'Europe, il n'y a pas une autre période où on peut déposer du carbonifère. Donc il avait parfaitement compris que c'était du carbonifère et qu'il était en fenêtre sous l'ensemble dans notre terre moderne. Donc je reste admiratif d'Argan pour ces points-là et je remercie en particulier les deux dernières personnes avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé dans les Alpes qui sont Benjamin Le Baillon et Paola Manzotti. On peut discuter. J'ai préféré ne pas ouvrir la discussion en cours de route, mais... J'ai pas fait de. Alors, ne prenez pas ce que je viens de dire pour une apologie d'Argan. Je suis moins argandien que certains collègues. C'est-à-dire que les collègues, pour ne pas les nommer, j'ai eu une discussion avec eux là, il y a deux semaines, Steck et Argan à Lausanne, Steck et Masson à Lausanne, sont argandiens jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand je dessine un chevauchement ici avec une zone de cisaillement basal, ils disent non, Michel, c'est un plinap. Donc il y a encore des partisans des plinap. OK ? Et simplement pour eux, si je ne suis pas capable sur le terrain de tracer le plinap, c'est qu'au fur et à mesure que l'anticlinal s'est développé, eh bien, le flanc inverse a été cisaillé. Et aujourd'hui, je ne vois plus le flanc inverse. D'accord ? Mais donc, toutes les nappes sont issues de plis de grande amplitude au départ. Voilà, ça, c'est l'option. Si vous regardez, ben, ça se traduit très clairement dans un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de Michel Martaler. Hein, Michel Martaler était aussi là pendant cette discussion. Le cervin est-il africain ? Vous vous rappelez, la girafe ou l'éléphant, je ne sais plus, la girafe, à côté du cervin, eh bien, toutes les coupes de Michel Martaler sont des coupes argandiennes au dernier degré. C'est tout des méga-plis replissés. Hein,
je vous propose une dizaine de minutes d'échange pour que vous puissiez prendre le temps de prendre un café afin de commencer la prochaine conférence juste à l'heure pour qu'on ne puisse pas trop prendre de retard ensuite sur l'après-midi. Question ?
Bon, j'étais très impressionné par votre exposé et j'ai retrouvé tout un peu mon histoire d'étudiant, puisque j'ai eu la chance de faire une thèse avec Lemoine, Marcel Lemoine, et avec Jacques de Belmas, hein, qui étaient donc mes deux patrons de thèse, dans la zone interne, juste à la fin de cette période que vous avez appelée le poteau noir ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire 66, vous voyez. Alors, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, parce que je lis là quelque chose qui, il y a 50 ans, hein, on lisait d'une autre façon. Hein, c'est évident. Alors, il y a une chose quand même qui est importante, c'est, qui nous manquait. C'est un outil dont on commençait à parler à ce moment-là et que vous avez utilisé tout le long de votre exposé. C'est celui de l'importance de la nature des minéraux et des matériaux que l'on a. Hein, les transformations en blind, les versions en amphibole, etc. C'est un langage que vous maîtrisez parfaitement bien parce que les concepts sont parfaitement bien établis maintenant. Nous n'avions pas ça du tout. Le premier qui en a parlé à Grenoble, c'était Jean-Louis Tan, qui avait donné des cours un peu particuliers, spéciaux, hein, sur la thermodynamique, une heure par semaine pour les troisième cycles, ceux qui voulaient y aller. Alors qu'en fait, il avait effectivement tout compris parce qu'il est dans l'axe que vous avez défini là. Donc, il y aurait beaucoup de choses, évidemment, qui sont à dire sur le sujet. Moi, il y a une chose que j'ai trouvée, c'est j'avais trouvé des calcaires à glaucophane. Oui. Et alors, quand j'ai trouvé ça, j'ai montré ça à Lemoine lorsqu'il est venu me voir, parce qu'il est venu me voir très souvent. Et il m'a emmené au Mont-Genève, où il avait trouvé aussi ces calcaires avec des glaucophanes. Et petite question, est-ce que vous avez une idée sur ce que ça peut être? Parce qu'on s'était vraiment posé la question à cette époque-là.
Ceux du Mont-Genève, je ne les connais pas. Okay. J'en connais dans le Queyras. Et bien sûr, ils ont été décrits aussi par Hélène Berger en Vanoise. D'accord. Dans les séries mésozoïques de Vanoise, donc déposées sur la croûte continentale briançonnaise, ou dans les séries océaniques, dans les marbres, ceux qu'on voit, ben, si vous connaissez le Chenaillet, ceux qu'on voit un petit peu avant la cabane des Noigniers, on trouve effectivement quelquefois des cristaux de glaucophane. Bon, là, la raison est toute simple, hein, ils ont fait partie des unités qui ont été enfouies dans la zone de subduction. Mais c'est relativement rare.
Moi, je voulais juste revenir sur le lien entre pression et profondeur dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez développer les mécanismes de surpression qui pourraient être responsables du décalage?
Oui. Ça, c'est une chose sur laquelle il faudrait interroger attentivement les mécaniciens. De formation, ma base théorique, c'est la thermodynamique. Et on travaille avec une pression qui, en moyenne, est une pression que l'on dit être isotrope. Autrement dit, la pression, c'est la moyenne des contraintes exercées dans ces sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 divisé par 3. Voilà. Si une roche résiste à la déformation, parce que mécaniquement elle est forte, la contrainte que je vais appliquer, la contrainte horizontale par exemple que je vais appliquer, elle peut être extrêmement élevée. Et du coup, la moyenne des trois sera plus élevée qu'une pression hydrostatique. Et la différence entre les deux, c'est ce que les mécaniciens appellent la surpression. Alors la question est de savoir combien de temps on peut maintenir cette surpression. Est-ce que, jusqu'à quel point on peut effectivement l'accumuler dans la roche et combien de temps on peut la maintenir? Et ça, c'est particulièrement vrai au regard des pétrologues qui vont nécessiter, je ne sais pas, des durées de l'ordre de millions d'années pour que leurs assemblages minéraux se développent pleinement. Donc là où la discussion, il y a une double discussion qui tient, qui tient à un aspect d'abord mécanique. Est-ce que je peux développer des pressions, des surpressions tectoniques parce que les roches sont plus résistantes? Et il y a un aspect thermodynamique ou cinétique qui est de dire pourquoi certaines roches n'enregistrent pas le métamorphisme de haute pression. Est-ce que c'est parce qu'il a manqué, par exemple, de l'eau pour que les minéraux se développent, ou est-ce que c'est parce qu'il a manqué du temps? Et à ce moment-là, quand je trouve les minéraux d'ultra haute pression, la coésite, est-ce que ce n'est pas parce qu'à un endroit donné, les roches ont réagi, mais quand elles réagissent et se transforment, la pression diminue, et à ce moment-là, on revient à des pressions normales. Donc il y a tout un champ d'exploration qui va être assez compliqué, un dialogue à établir entre les mécaniciens sur le comportement des roches et les pétrologues sur ce qu'ils enregistrent exactement, à quel moment et pour quelle raison. Voilà. Et on rouvre un débat là qui va durer 10 ans. Hein. On est juste au tout début, qui dure déjà depuis un moment. Mais il y a une dizaine d'années, quand ces premiers papiers sont parus, les géologues structuraux, les mécaniciens qui ont fait ça, nous autres pétrologues, on les a regardés loin. On a dit, on ne veut pas savoir. Ça nous complique la vie. Parce que si la pression n'est plus une mesure de la profondeur, notre boulot ne sert plus à rien. D'accord. Bon, on est sorti de cette période-là. On a bien compris que ce que les mécaniciens mettent en doute, ce n'est pas les pressions, les estimations de pression qu'on fait. C'est le lien avec la profondeur. Et ça, ce lien-là, ce n'est pas la thermodynamique qui l'enseigne. D'accord ? Toute la thermodynamique qui est à la base de ce que font les pétrologues, c'est une thermodynamique à l'équilibre. Et donc, il y a soit une thermodynamique hors d'équilibre à développer, qui inclut les contraintes non hydrostatiques. Voilà.
Oui, au sujet de l'hypothèse de l'érosion des arcs, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des indices dans les produits d'altération, enfin d'érosion des fliches et...
Si. Vous avez vu que j'ai traité les Alpes comme si je ne connaissais que les zones internes. Les zones externes, ça existe aussi. Et dans les zones externes, il y a en particulier certains fliches, les molasses, dont les produits d'érosion sont issus des zones internes. Et donc, je peux bien sûr les regarder. Et effectivement, il y a une grande quantité de fliches qui sont d'âge éocène supérieur au tout début de l'oligocène qui contiennent des fragments remaniés dans des dites tertiaires. Voilà. Et pendant longtemps, alors, c'est d'une part, ces andésites, elles ont le même âge que le magmatisme calco-alcalin que j'ai signalé dans les portions les plus internes, les plutons de Biela, Traversella, etc., le long de la ligne péri-adriatique. Donc on pouvait penser qu'elles en étaient issues. Mais de plus en plus, les géologues pensent que ces formations calco-alcalines remaniées dans les fliches sont issues en fait d'une zone de subduction qui fonctionne effectivement avec les caractéristiques standards tout à fait au sud, c'est-à-dire en Méditerranée, et dont le retrait sera associé au rollback générant tous les bassins méditerranéens. Et donc, les morceaux de calco-alcalin qu'on trouve dispersés dans les sédiments alpins ne proviennent en réalité, pour la plupart, pas des Alpes directement, mais d'un effectif arc calco-alcalin tout à fait différent qui a existé au sud. Ça, c'est les effets tridimensionnels dont il faudrait que je parle dans le bassin de Fliche ou dans le bassin molassique. Le sang général des courants n'est pas perpendiculaire à la chaîne, il est parallèle à la chaîne. Et donc, des objets que je trouve dans les aiguilles d'Arve, par exemple, avec les andésites, ils peuvent très bien venir de Corse ou de Sardaigne. Donc, je fais une réponse un peu nuancée. J'ai moi-même essayé d'aller, par exemple, dans le Champsaur, voir ces objets, en disant, mais si, c'est ça l'arc alcalin. Bon, ok, j'ai quelques doutes maintenant. Droit à toutes les questions, même vous savez que les questions les plus stupides sont les meilleures.
Ben, bonjour, celle-là va l'être parce que j'ai raté le début de votre présentation. Il est possible que vous y ayez déjà répondu. C'est justement par rapport à la manière dont vous vous positionnez avec les étudiants en ce qui concerne la chronologie de ces processus. Comment est-ce que vous vous positionnez entre une vision parfaitement continue et une vision phasée de la construction des Alpes?
Je ne prends pas position. C'est-à-dire que je me souviens, j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait ma thèse, 110 millions d'années ou 100 millions d'années, c'était l'âge du métamorphisme. Aujourd'hui, on me dit c'est 35 à tel endroit, 40 ou 45 ou 50 là. D'ailleurs, les géochronologistes discutent à Césia, est-ce que c'est 60, 65, 80 ? Bon, ben, ça veut dire que l'option continuité ou épisode discret, elle est hors de résolution de la géochronologie aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je ne suis pas capable de dire raisonnablement si le viso, c'est très exactement 45 plus ou moins 1, ou 50, ou certaines à 50, d'autres à 45, les deux plus ou moins 5. Raisonnablement, nos outils géochronologiques ne permettent pas d'être aussi fins. Voilà. Parce que, et encore une fois, quand je dis les outils géochronologiques, ce n'est pas tant le problème des outils de mesure. Les outils de mesure, ils sont parfaits, ils donnent des âges parfaits. D'accord ? Les géochronologistes savent les utiliser à merveille. Le problème, c'est plutôt dans notre camp pétrologue qu'est le problème, parce que quand on date un zircon, qu'on date un grenat, qu'est-ce qu'on date exactement du cycle métamorphique ? Quand se situe la période de croissance des grains que les géochronologistes datent à plus ou moins un ou un demi-million d'années ? Et ça, c'est un problème qui est particulièrement pas facile, sur lequel il y a des avancées, d'accord ? De grosses avancées, ce qui fait qu'effectivement, l'image qu'on donne aujourd'hui de la progression du métamorphisme haute pression à travers les Alpes, c'est une image solide, mais à mon sens, ce n'est pas encore une image suffisamment solide pour qu'on l'affine. Au-delà, allez, on se situe dans un intervalle de 5 millions d'années. Voilà. Mieux, je ne crois pas.
Merci Michel. J'ai une question, mais pas pour moi, je suis pas prof en lycée, mais je pense que si j'étais prof en lycée, j'en aurais marre d'aller au Chenaillet. J'en aurais marre de cette procession, 50 bus, 50 classes, j'en aurais marre d'y aller tous les ans. Dis-nous, s'il te plaît, où est-ce que si j'arrive à convaincre mon proviseur de me donner l'autorisation de sortie des élèves pour une journée, que j'arrive à dormir la veille et dormir le lendemain, j'ai une journée dans les Alpes, je veux laisser mes étudiants réfléchir en regardant des roches et des paysages, où dois-je les emmener, s'il te plaît ?
Alors, je vais commencer par prendre la défense du Chenaillet. Le Chenaillet, c'est la seule ophiolite non métamorphique dans les Alpes. D'accord ? Donc, c'est la seule dans laquelle on puisse emmener nos étudiants pour voir un ensemble de processus tels qu'ils se sont déroulés au niveau de la ride. Ça, je ne pourrais pas le remplacer. Ça n'est pas les Alpes. D'ailleurs, je ne suis pas rentré dans cette discussion, mais le Chenaillet, on est tous d'accord que c'est la plaque supérieure, puisqu'il n'a jamais été enfoui. Et ça pourrait bien être le témoin de l'océan qui était entre Sésia-Dent Blanche d'un côté et le Sud-Alpin de l'autre. Autrement dit, les séries, ça j'ouvre un tout autre débat, mais ça, les séries ligures sont distinctes des séries qu'on trouve dans le Queyras et dans le Vissou. Bon, donc il y a moyen même de mettre de l'ordre là-dedans. OK. Maintenant, les autres possibilités sont relativement réduites. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de montrer ? Des ophiolites au-dessus d'une croûte continentale ? D'aller toucher des ophiolites ? À mon avis, la seule alternative raisonnable, c'est le Viseau, de faire la coupe qui mène à Pian del Rey. C'est-à-dire parce qu'à ce moment-là, sur la route, on traverse Dora Maïra. Juste avant d'arriver à Pian del Rey, on a les carbonates triasiques, très beaux, et au-dessus, on a effectivement les ophiolites éclogitiques dans lesquelles on peut montrer le manteau, les gabbros, si on va beaucoup plus haut, les basaltes. Mais c'est la seule solution. Et là, on voit effectivement un contact qui est croûte océanique sur croûte continentale. Alors que j'admets que le Chenaillet, c'est une hérésie tectonique. C'est un graben au milieu de la chaîne. C'est vrai. OK ? Donc en plus, il est limité par des failles normales de chaque côté. Hein, une qui passe à Montgenèvre, une qui passe à Servières. Donc je veux dire... Bon, comme exemple, on ne voit pas ce sur quoi reposent les ophiolites, on est d'accord. Hein, voilà. Mais il faut savoir, là aussi, quand on enseigne, il faut se dire qu'on a un seul objectif. Si l'objectif, c'est de montrer ce qu'est la croûte océanique, on va au Chenaillet. Si l'objectif est de montrer l'empilement dans les Alpes, on ne va pas au Chenaillet. Oui, précision de Stéphane Guillaume pour voir les ophiolites. Il y a une autre possibilité qui est de monter à Champs-Rousse. Mais si tu veux, Champs-Rousse, j'avoue aussi qu'en cours, j'en dis jamais un mot. Parce que dire qu'il y a. Parce que si je traite du Varisque, je vais dire la plus belle ophiolite du Varisque, c'est Champs-Rousse. Et à ce moment-là, les étudiants, ils se mélangent les pinceaux parce que c'est quand même curieux d'avoir une ophiolite hercynienne dans les Alpes, quoi. Et donc, pour éviter toute confusion, ça fait partie des choses, allez, j'ignore.
Merci bien, on va conclure cette première partie de conférence.
Merci à vous.